E-Radio, l'invité de la rédaction.
Près de 10 ans après la crise des migrants de 2015, le nombre de déplacés de force fuyant leur pays par la Méditerranée reste élevé. Pour contrôler ces flux, l'Union européenne a mis en place des mesures de contrôle aux frontières et des politiques anti-migratoires. Alain Dontaine, bonjour. Vous êtes politiste, vous enseignez jusqu'à très récemment la géopolitique et les relations internationales à l'Université Grenoble-Alpes. Vous êtes membre de l'ONG libanaise Amel, qui promeut les droits de l'homme et la justice sociale. Et selon vous, ces nouvelles politiques migratoires de fermeture des frontières sont le résultat d'un changement de paradigme. Vous avez en ce sens publié à l'Institut Rousseau une note intitulée « Sortir du paradigme sécuritaire, garantir le droit d'asile en Europe ». Ce que l'on voit dans cette note, c'est que ce passage au paradigme sécuritaire dans lequel on serait actuellement, il est lié à l'évolution en fait de la notion de sécurité.
Je dirais qu'il y a deux grandes conceptions de la sécurité, ou si vous préférez, de la sécurité de qui parle-t-on. Et donc il y a une conception qui renvoie à la sécurité des personnes, à la sécurité humaine, et il y a une autre conception, beaucoup plus classique dans les relations internationales, qui renvoie à la sécurité des États. Quand on regarde le monde, on se dit qu'il y a une compétition entre les États, c'est la géopolitique, hein, et donc les États ont une action, une politique pour défendre leur propre sécurité. Et ce qui s'est passé petit à petit, c'est qu'on a glissé d'un paradigme à l'autre. Je m'explique plus clairement peut-être. Dans les années 90, on a, suite à toute une série de réflexions, notamment sur ce qu'on appelle le développement durable, on a toute une déclaration du PNUD, c'est le programme des Nations Unies pour le développement, qui va élargir le concept de sécurité humaine. Jusque-là, la sécurité humaine, c'est classique, c'est la sécurité des personnes. Hein, vivre dans une situation de sûreté où on n'est pas agressé, où on ne craint pas pour sa propre vie du fait de violences, quelles qu'elles soient, exercées autour de nous. Ça, c'est le concept très classique. Et en 1994, le PNUD dit « mais ça suffit pas, parce que la sécurité humaine touche à bien des domaines de la vie sociale. Il y a celui dont je viens de vous parler, mais ils vont définir aussi une sécurité, par exemple, économique, hein, c'est un revenu, l'emploi, une sécurité en termes de santé, une sécurité alimentaire, une sécurité au niveau de l'environnement, politique, bon, et ainsi de suite. Et donc, on a une vision très large de ce que c'est que la sécurité humaine. Et comme je vous le disais, cette vision très large s'inscrit dans des politiques qui ont pour objectif le développement durable de tous à égalité sur la planète.
Mais avec cet élargissement de la notion de sécurité des personnes, on aurait pu s'attendre à un meilleur accueil, une meilleure prise en charge des migrants, des demandeurs d'asile, des réfugiés.
C'est assez étrange. Hein. Au même moment où le PNUD fait ce pas en avant, on a un développement, une apparition, ou une réapparition plutôt, du paradigme que nous qualifions de sécuritaire. C'est-à-dire que les grandes puissances vont se retrouver face à l'apparition de ce qu'on a appelé les nouveaux conflits, les nouvelles guerres. C'est un célèbre livre qui part aux États-Unis en 1999, si je me souviens bien. Et on va dire qu'il y a un nouveau problème sécuritaire dans le monde qui, étrangement, alors ça sonne bizarrement aujourd'hui, hein, on est en décalage avec notre époque, mais qui, étrangement, viendrait de la faiblesse de certains États. C'est-à-dire que ce n'est plus la puissance d'un certain nombre d'États qui seraient agressifs, qui représentent une menace pour la sécurité, c'est au contraire la faiblesse de certains États qu'on va qualifier de faillis ou de fragiles, peu importe. Et les attentats du 11 septembre, là on est en 2001, donc vous voyez, on est sur une période assez courte, les attentats du 11 septembre 2001 vont confirmer en quelque sorte le danger pour la sécurité des États, des citoyens, des grandes puissances, venant de pays plutôt faibles, plutôt en difficulté, c'est-à-dire là où il y a des États qui ne contrôlent plus leur territoire, ni leur population. Et là, vous avez véritablement ce basculement du paradigme et l'arrivée et le développement du paradigme sécuritaire, parce que dans les relations internationales vient en premier désormais le souci de la sécurité des frontières. Et on a assisté à une multiplication des murs dans le monde. On nous a énormément parlé du mur de Trump, mais c'est extrêmement limitatif. D'abord, ce n'est pas le sien, puisqu'il était construit bien avant lui. Et puis dans le monde, vous savez, aujourd'hui, on dénombre au moins 60-70 murs ou projets de murs. En gros, on est près de 40 000 km de murs érigés ou en voie d'être érigés dans le monde. Et donc, on a bien une politique de fermeture. Et ça, c'est au nom du paradigme sécuritaire, il faut se protéger de ce qui vient de l'extérieur. Les migrants sont considérés comme une menace.
Quelles sont les conséquences de ce paradigme sécuritaire pour les migrants? Alors, on le rappelle ici, on parle des déplacés de force et pas des migrants économiques ou des étudiants. On parle surtout des personnes qui fuient par la Méditerranée, notamment.
Mais plus on va aller vers des politiques de fermeture, plus on met en danger la vie des migrants. Parce que, si vous voulez, si on accepte ce que je viens de dire, c'est-à-dire des menaces pour leur vie, du fait soit de guerre, de violence, soit de catastrophes climatiques, il est clair que ces gens ne peuvent pas rester là où ils sont. Et donc, plus vous allez vouloir fermer par des mesures diverses et très critiquables, on pourra peut-être y revenir, mais c'est pas ça qui arrêtera les gens. À partir du moment où vous ne pouvez plus vivre chez vous, forcément, vous êtes obligé de partir. Et si on vous met des obstacles, ben vous allez chercher à les surmonter. C'est cette politique qui met en danger la vie de ces gens. Et nous, on parle d'insécurisation des parcours de migrants. Et cette insécurisation, elle provient des politiques européennes, d'une part, et elle produit un drame en Méditerranée, puisqu'on estime désormais à presque 30 000 personnes décédées en Méditerranée qui cherchaient à traverser. Entre 2014 et 2020, on a à peu près, c'est terrible, hein, mais 2300 enfants morts ou disparu en Méditerranée.
Vous parlez des conséquences pour les migrants de ces politiques européennes qui insécurisent leur parcours. Ce n'est pas la seule conséquence négative dont vous parlez dans la note que vous avez écrite. Quelles sont ces conséquences pour les États et pour les autres personnes qui participent au parcours de ces déplacés de force?
Ces politiques européennes ont deux conséquences qui sont en quelque sorte deux échecs. La première, c'est que de toute façon, elles n'arrivent pas à arrêter l'arrivée des migrants, qui effectivement sont à nouveau en progression. Il y a plus de migrants en 2023 et là sur les premiers mois 2024 qu'au début, qu'il y a 3-4 ans, je dirais. Donc ça, c'est un premier échec de ces politiques qui, je le répète, insécurisent, mettent en danger la vie des migrants. Et puis le deuxième échec terrible dont on parle beaucoup trop peu, me semble-t-il, c'est que les seuls gagnants de ces politiques, ce sont les réseaux de passeurs. Et les réseaux de passeurs, vous savez, ce sont de véritables mafias. Hein, c'est des organisations internationales qui exploitent les migrants de leur départ de chez eux à l'arrivée chez nous et qui continuent à les exploiter une fois sur place avec des choses absolument dramatiques telles que pour les jeunes filles, la prostitution obligée. Donc voilà, c'est ça, ces politiques qui débouchent sur des catastrophes humaines, en fait.
On se retrouve avec Alain Dontaine, politiste, anciennement professeur à l'université Grenoble-Alpes, pour parler de la question des ONG et leur rôle en Méditerranée. Vous avez participé à une conférence en 2018, « Pourquoi perd-on la guerre ?», dans laquelle vous citiez le but des Nations Unies, qui est notamment de maintenir la paix et la sécurité internationale, de développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits des peuples et réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes d'ordre humanitaire sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. J'ai donc une première question. Est-ce qu'à l'heure actuelle, selon vous, ces principes sont menacés par les politiques migratoires en Europe?
Dans cette conférence, on abordait les questions de la guerre. Et le but des Nations Unies est évidemment d'assurer, de maintenir la paix dans le monde, et l'Union européenne doit partager ce principe. Il y a aujourd'hui, du fait des politiques migratoires européennes, une menace pour l'exercice d'un droit qui est le droit d'asile. Il ne s'agit pas de dire que l'Union européenne ne respecte pas le droit d'asile, qui est un droit international, hein, mais les politiques migratoires de fermeture des frontières font que pour beaucoup de demandeurs d'asile, il devient difficile, même périlleux, de pouvoir exercer ce droit. Et donc, ces politiques mettent en danger l'exercice d'un droit ou l'accès, c'est comme ça qu'on dit en général, l'accès à ce droit qui est le droit d'asile. Et c'est là où effectivement nous adressons une critique dans notre note, nous adressons une critique à l'Union européenne.
Et donc en quoi est-ce que les États membres de l'Union européenne menaceraient l'exercice effectif de ce droit d'asile ?
Il y a deux choses. Là, je commencerai par la première. Je veux surtout vous parler du sauvetage en mer, en fait. Le droit international n'est pas respecté. Il existe dans le droit international, dans le droit de la mer, l'obligation de sauvetage des personnes qui sont en détresse en milieu marin. C'est l'obligation du pays auprès duquel le bateau est immatriculé de faire respecter ce droit, cette obligation, par le commandant. Beaucoup de pays ne le font pas. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les zones SAR. C'est un partage de la Méditerranée entre pays côtiers, entre pays riverains, où on se répartit le sauvetage en mer. Et ensuite, vous avez une organisation de ce sauvetage ou une désorganisation de ce sauvetage du point de vue des États qui ne jouent pas leur rôle. Et donc, les ONG sont intervenues pour combler ce vide juridico-politique du fait de l'attitude des États européens. Les ONG réalisant leur mission humanitaire se sont retrouvées accusées en justice. C'est-à-dire non seulement on leur met des bâtons dans les roues, mais en plus on les a traînées en justice.
Se pose donc le problème des États membres de l'Union européenne qui ne prennent pas en charge les personnes en détresse, ou en tout cas pas assez, notamment dans leurs zones SAR, les zones Search and Rescue, et qui en plus utilisent des moyens judiciaires en les traduisant donc en justice et en les accusant par exemple de jouer le jeu des passeurs. Mais ce qui empêche les ONG de mener à bien leur mission humanitaire, ce n'est pas seulement la passivité des États et de l'Union européenne, ce sont aussi tous les mécanismes de blocage qu'ils ont mis en place et que vous venez d'appeler des bâtons dans les roues des ONG.
Qu'est-ce que ça veut dire, on met des bâtons dans les roues ? Tout d'abord, il y a une multiplication des visites de sécurité sur les bateaux des ONG de secours en mer. Et on multiplie les tracasseries administratives par tous les moyens de manière à retenir ces bateaux à quai. On utilise des règlements administratifs et bon, j'ai rien contre hein, ces règlements de sécurité, mais on les utilise de telle manière à paralyser l'action humanitaire. Il y a une autre manière de faire. Pour mettre des bâtons dans les roues, encore que pour un bateau, c'est pas une très bonne expression finalement, c'est que quand les bateaux des organisations humanitaires recueillent des migrants, ils doivent demander à l'État dans les eaux desquelles ils se trouvent s'ils peuvent emmener ces migrants, et c'est l'État qui va leur donner une destination avec la notion de port sûr. Et ces ports sûrs sont donc des endroits, ça c'est le droit international d'ailleurs, hein, pas qu'européen, ce sont des endroits où on peut débarquer les migrants et où ils peuvent se retrouver en sécurité. Or, c'est l'État qui décide, et donc, bien pour vous donner une petite idée, l'Ocean Viking, au mois de décembre 2023, avait 26 personnes recueillies à bord, un peu en Méditerranée centrale, un peu dans le sud de la Méditerranée, et le gouvernement italien lui a donné comme destination un port qui était à 1000 km de là. Donc c'est un moyen de paralyser l'action humanitaire parce que, eh bien, on a dit à l'Ocean Viking, vous allez faire plusieurs jours de mer pour rejoindre le port sûr. Ça veut dire qu'en gros, pendant une dizaine de jours, le bateau n'était pas sur place entre l'aller et le retour. Voilà. Ça, c'est les nouvelles techniques. Ça, c'est, je vous dis, en décembre 2023, mais en janvier 2024, les autorités italiennes ont recommencé. Et donc, ça fait partie de ces méthodes où les gouvernements, clairement, essayent d'entraver l'action humanitaire.
Mais cette utilisation de leviers financiers, administratifs, techniques, pour limiter l'efficacité des bateaux de sauvetage, est-ce qu'elle doit faire face à des résistances, à des personnes, à des institutions qui disent « Non, on ne peut pas faire ça, il faut respecter les conventions que les États ont signées ».
En fait, on a deux excellentes nouvelles. En Italie, la justice a déclaré un non-lieu au mois d'avril, là, 2024, contre ces accusations d'action favorisant l'immigration clandestine. Ça, c'est pour l'Italie. Et encore plus récemment, il y a quelques semaines, le Conseil d'État a levé les risques de judiciarisation que pourraient redouter les collectivités locales désireuses de participer au financement des ONG, des ONG de secours en mer, bien entendu. C'est-à-dire que le Conseil d'État a réaffirmé le caractère non politique des secours apportés aux naufragés en Méditerranée. Et ça, c'est fondamental parce que les États se sont retirés de beaucoup de financements des ONG pour les empêcher d'accomplir leur mission. Les ONG se sont tournées vers les collectivités locales et des collectivités locales se sont proposées immédiatement de financer. Mais elle ne pouvait pas, parce que c'était considéré comme une action illégale, politique, et ainsi de suite.
La solution, selon vous, pour éviter cette judiciarisation de manière plus globale et sans dépendre des cours administratives suprêmes, comme le Conseil d'État, c'est de faire de la Méditerranée un espace humanitaire. Et qu'est-ce que ça permettrait, concrètement ?
Eh bien, écoutez, on vient de parler de stratégie d'empêchement du travail des ONG, je vous ai parlé de criminalisation. Ce statut de Méditerranée, espace humanitaire, permettrait aux ONG d'agir librement, c'est-à-dire de pouvoir réellement engager les actions de sauvetage qu'elles souhaitent. Donc c'est quelque chose de fondamental. Ce serait une manière de répondre au vide de régulation en Méditerranée dont je vous parlais tout à l'heure, parce que si la Méditerranée est reconnue comme zone humanitaire, ça veut dire que c'est une zone où on va appliquer les principes humanitaires de secours aux personnes en détresse, qui, dans le droit international, ont un droit à assistance et à protection. Tant que les États ne font pas face à leurs responsabilités, y compris responsabilités juridiques, eh bien, c'est une manière de permettre au secours des personnes en détresse de faire leur travail de manière efficace. Et donc, d'une certaine façon, cette mesure serait aussi un aspect du renforcement nécessaire du respect du droit international dont je vous parlais tout à l'heure. Après, vous savez, on peut rêver, hein. Espérons qu'un jour, on voit l'apparition d'un service public européen du secours en mer. Et ces questions-là prendront une autre dimension et les ONG n'auront plus à se soucier de cette question. Mais on en est loin.
Merci beaucoup Alain Dontaine d'avoir pu parler à Euradio des conséquences liées aux politiques migratoires de fermeture des frontières et à ses impacts, donc non seulement sur les personnes déplacées de force, mais aussi sur les États, sur les groupes de passeurs et on vient de le voir sur les ONG. Je rappelle que vous avez écrit donc une note à l'Institut Rousseau qui reprend ces éléments et qui propose en plus un panel de solutions pour faire respecter les conventions que la France et d'autres pays européens ont signées.
Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur euradio.fr.